Alors donc on va commencer cette soirée. Le principe de la carte blanche qui est donnée aux auteurs en résidence, c'est de disposer d'une heure de temps pour participer, pour vous présenter un sujet particulier qui nous intéresse et qui concerne notre écriture. Ce soir, ce qu'on va faire, je vais pendant à peu près 45 ou 50 minutes vous parler et ensuite on fera des questions-réponses pour que ce soit plus convivial et que ce ne soit pas uniquement moi qui parle tout le temps. Le sujet que j'ai choisi pour ma carte blanche, c'est de tenter d'expliquer ce que j'appelle mon travail d'écrire. Parce que pour moi, écrire, et écrire en particulier des romans, puisque je suis romancière, c'est pas seulement raconter des histoires. C'est chercher comment raconter des histoires. C'est très différent. En préambule, je vais vous dire pourquoi c'est intéressant d'être en résidence pour travailler. Une résidence d'écriture, qu'est-ce que c'est ? Une résidence d'écriture, c'est un endroit où on va aller passer du temps. Ici, on peut passer entre 15 jours et 6 mois. Un endroit loin de chez nous, dans lequel on reste. Moi, je viens de passer 3 mois, il me reste 15 jours encore. On reste pendant tout ce temps-là sur place, on ne rentre pas chez nous, on ne retourne pas chez nous. Donc, on est coupé des nôtres. Donc on est au calme de tout notre univers habituel, notre voisinage, notre famille, etc. Et on va travailler dans ce calme comme dans un cocon. Une résidence d'écriture, c'est vraiment un lieu où on s'isole pour travailler. Et c'est très important pour moi, je fais beaucoup de résidences d'écriture, c'est très important pour moi de m'isoler, surtout, on va le voir dans ce que je vous dirai après, pour mon travail qui est un travail sur les émotions, et être un peu protégée dans un lieu loin des miens, c'est très important pour moi. Une résidence d'écriture, en tout cas les résidences d'écriture pour lesquelles je postule, qui moi m'intéressent, sont des résidences dans lesquelles on ne me demande pas de produire un résultat. Je ne veux pas avoir une commande quand j'arrive en résidence d'écriture, parce que je suis incapable de dire si à la fin de la résidence je vais avoir réellement écrit quelque chose d'intéressant ou pas. Et je vais vous raconter à la fin comment je travaille là en résidence, et vous allez voir que je vais peut-être repartir avec moins que ce que j'avais en arrivant. Donc, c'est important pour moi de pas avoir de quelque chose à rendre. Ensuite, ce qui est important aussi dans une résidence d'écriture, et dont on ne parle pas souvent en public, mais moi je tiens à le dire, c'est qu'en résidence d'écriture, on est rémunéré pour travailler. Et être payé pour écrire, ça nous permet d'avoir du temps libre rien que pour ça et de ne pas avoir à faire un autre métier à côté pour gagner notre vie, donc d'avoir le cerveau complètement libre pour ne faire qu'écrire. Donc ici, toutes les conditions sont réunies pour être bien, et en plus, ce qui fait la particularité de cette résidence par rapport à toutes celles que j'ai pu faire, ce qui sont de grands points forts, c'est sa bibliothèque. Ici, il y a une bibliothèque géniale à disposition des écrivains, et pour moi, lire et écrire, c'est très lié. Donc c'est très important pour moi pour écrire. Alors, puisque lire et écrire sont liés, je vais commencer de vous expliquer mon travail d'écriture en vous parlant de mes lectures. Je ne peux pas écrire sans lire. J'ai besoin de lire en permanence. Et je lis comme j'écris, c'est-à-dire que je ne choisis jamais un livre par rapport au sujet, par rapport à l'histoire. Je me moque de l'histoire. Ce qui m'intéresse dans un livre, c'est uniquement le style. Uniquement. Ça veut dire que quand je rentre dans une bibliothèque, soit je vais chercher un livre parce que j'aime cet auteur ou parce qu'on m'a dit tu devrais regarder cet auteur, soit je prends au hasard et je commence à lire le livre. Je ne lis jamais la quatrième de couverture. Jamais. Et je commence à lire le livre et au bout de quelques pages, déjà, je sens si ça va ou pas. Parfois, ça ne va pas du tout, donc je range le livre. Je lis, en règle générale, une trentaine de pages. Et au bout de 30 pages, j'ai vu si le style est intéressant. Intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment un travail sur la langue. Ça veut dire que je me pose des questions en le lisant. Ça veut dire que j'ai envie de continuer à lire le livre. Ça veut dire que je ne me dis pas « Ah tiens, ça fait 3 pages que je pense à autre chose. » C'est ça pour moi, le style. Et quand ça me plaît, je prends les livres. Ça veut dire que peut-être 4 livres sur 5, je ne les lis pas. Je les ramène. Il y a tellement de livres à lire, c'est pas un problème du tout. Il m'en reste toujours à lire. Et ici, je panique parce qu'il me reste juste 3 semaines de résidence et je n'aurai pas lu toute la bibliothèque. Alors, ce que je fais aussi, c'est que Je relis beaucoup. Je lis et je relis. Parce que les livres qui m'intéressent au niveau du style, j'ai besoin de les fouiller pour comprendre pourquoi c'est si bon, pourquoi ça m'intéresse autant. Alors j'ai amené quelques livres et très rapidement, je vais passer en revue. Vous allez voir, c'est des choses très très différentes. Et je vais vous lire pour certains des tout petits, très courts extraits. Premier livre que j'adore relire, ça va faire rire sans certains d'entre vous sans doute. Je lis très peu de classiques. J'ai beaucoup de mal avec les classiques parce que j'ai eu des très mauvais profs de français qui m'ont fait détester les classiques. Mais il y a aussi parfois des bons profs de français. Mais celui-là, ce n'est pas un prof qui me l'a fait découvrir. Pierre Loti, pêcheur d'Islande. A priori, une histoire, mais qui n'est pas du tout pour moi. Moi, je suis une fille de la montagne, les marraines, c'est vraiment... Je ne comprends rien, moi, à la mer, à la pêche, c'est vraiment pas... ça ne m'intéresse pas. En plus, l'histoire qu'il raconte est complètement mièvre. Complètement mièvre, la jolie fille et le beau marin, ils vont tomber amoureux, mais ils ne se rendent jamais compte qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, etc., etc. Puis à la fin, au moment où ils comprennent qu'ils sont amoureux, où ils vont se marier, ils vont mourir en mer. Ouais, mais c'est écrit par Pierre aussi. Et du coup, je vous lis juste quelques lignes, le début. J'espère que je ne vais pas le massacrer. Ils étaient cinq, aux carrures terribles, accoudés à boire, dans une sorte de logis sombre qui sentait la saumure et la mer. Le gîte, trop bas pour leur taille, s'effilait par un bout, comme l'intérieur d'une grande mouette vidée. Il oscillait faiblement, en rendant une plainte monotone, avec une lenteur de sommeil. Je vais pas plus loin. Mais moi, me décrire l'intérieur d'un bateau comme l'intérieur d'une grande mouette vidée, je suis à la quatrième ligne du texte, je me dis, ouais, déjà, l'image est belle. Je ne sais pas s'il va tenir mes 30 pages de départ, mais il les tient, et il tient tout le livre. Et je relis, des livres comme ça, je les relis beaucoup. Ça peut étonner pas mal de monde qui peuvent trouver ça... L'histoire est vraiment cucu, hein, il n'y a pas d'autre mot, mais c'est génial. Alors... Autre genre, totalement autre genre, un tout petit livre, hein, fabuleux, d'une auteure suisse toute jeune de Lausanne, Anne-Sophie Subilia. À tout le monde, je parle de ce livre. Anne-Sophie Subilia, elle est beaucoup plus jeune que moi, elle dort 35 ans, quelque chose comme ça. Ce livre, il est sur le même sujet que mon dernier roman, c'est-à-dire le déni de grossesse. Anne-Sophie Subilia, elle écrit un très court livre, dans lequel elle reprend une histoire qui existait, une histoire atroce, dans lequel une femme descend dans sa cave pour aller fouiller son congélateur dans lequel elle prend ses bébés morts qu'elle a congelés pour aller les verser. C'est horrible. Mais regardez ce que ça donne. Je vous lis juste un tout petit extrait. Alors, j'ai un problème entre le micro et les lunettes, mais je vais y arriver. Se demander si la mère se berçait en même temps, si elle pouvait, pendant qu'elle les berçait, ses corps, au nombre de deux, se bercer elle aussi, et se demander si elle ne berçait pas trois corps, pas deux, mais trois, si elle se berçait avec eux, elle aussi, comme jamais. Je ne sais pas si je le rends bien, mais moi, ça me... Je trouve ça très beau. Dans un autre, ça s'appelle, je n'ai pas dit le titre, Anne-Sophie Subilia, qui vive, et un tout petit éditeur suisse qui s'appelle Paulette Édition, qui imprime le livre à la demande. Donc il faut être motivé pour l'avoir, mais soyez motivé. Je n'ai pas des actions sur le livre. Ensuite, Sylvie Germain. Sylvie Germain, j'adore les premiers livres. J'aime pas les livres suivants, mais j'adore les premiers livres de Sylvie Germain. Jour de colère en particulier, le livre des nuits. Et pareil, l'écriture, pour dire des choses horribles, le dire avec une douceur incroyable. La guerre de 14, les tranchées. Mais il n'y avait pas que la neige qui tombait en cet endroit. Il tombait de tout. Des obus, des fusées, des avions parfois, des hommes à chaque instant, d'énormes mottes de terre, des débris de bois, des cailloux, des bouts de barbelés. On finissait même par s'attendre à voir tomber des morceaux de ciel, des nuages, le soleil, la lune et les étoiles. Ça, c'est pour le style. Après, il y a des livres qui m'intéressent pour le style, mais aussi pour la construction, la façon dont l'histoire est amenée. Laurent Baudet, par exemple, et ce livre-là en particulier de Laurent Baudet, Ouragan, je le trouve très très intéressant au niveau de la construction. Laurent Baudet, qui, entre parenthèses, a été pris Goncourt des lycéens et pris Goncourt et qui aurait pu prendre la grosse tête, et qui continue à vraiment travailler ses livres, c'est pas le cas pour tout le monde, mais lui, c'est le cas. Je ne le connais pas, mais j'aime ce qu'il fait vraiment. Laurent Baudet, souvent dans ses livres, il crée plusieurs voix de plusieurs personnages, et on suit chaque personnage un peu à tour de rôle, qui avance dans la vie, on ne sait jamais à quel moment ils vont se croiser, on ne sait même pas s'ils vont se croiser ou pas. Et ça arrive comme ça jusqu'à la fin du livre. Et dans Ouragan, il y a un passage extraordinaire, donc c'est pareil, c'est comme ça, et puis à un moment, l'ouragan a lieu, et toutes les voix s'en mêlent, ça fait vraiment la sensation de l'ouragan, et après ça se recalme derrière. C'est très très beau travail de construction, je le relis très souvent, juste pour le plaisir de cette construction très très forte. Et puis après j'arrête avec les livres que j'aime lire, parce que je peux vous en faire pendant 3 heures. Ici, une découverte ici à la bibliothèque, Raymond Federman, que je ne connaissais pas du tout, et un livre qui s'appelle « Quitte ou double ». Mais je suis en train de tout lire de lui. Mais « Quitte ou double », c'est incroyable. Alors, déjà, si vous l'ouvrez dedans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il joue vachement sur la calligraphie, la typographie. Et, mais moi j'aime pas d'habitude ce genre de choses. Je trouve que c'est assez gratuit, je ne comprends pas forcément le sens. Dans ce livre-là, c'est très fort parce que tout le texte est très bon, c'est un roman, c'est 3 histoires mêlées, donc ça pourrait être très tordu, très compliqué. En plus, c'est assez horrible. Raymond Federman, c'est quand même quelqu'un dont les parents, enfin, il a vécu la rafle du Veldiv, ses parents et ses sœurs se sont fait prendre, et lui, parce que sa mère l'a mis dans un placard au dernier moment, il s'en est sorti. Il raconte des choses absolument terribles, avec un humour. Mais moi, je ne lis pas facilement en lisant, mais alors là, je lis vraiment. Très très beau. Quitte ou double, Raymond Federman.